Bonjour à toutes et tous, et que le Seigneur nous accompagne encore cet après-midi dans ces moments privilégiés et bénis que nous pouvons passer en sa présence, et puis ensemble aussi pour partager ses louanges, ses adorations. Merci pour les chants, merci pour cette lecture. Lecture ô combien riche d'enseignements à plusieurs points de vue. Il y a beaucoup de choses à dégager de ces textes que nous venons de lire dans l'Acte des Apôtres, chapitre 4 et 5. Ce que je vous propose cet après-midi, c'est de réfléchir en deux temps, sur effectivement, comme l'indique le titre, solidarité à quel prix ? Point d'interrogation. Alors pourquoi en deux temps? Parce que nous allons voir deux attitudes, on va dire, foncièrement différentes. Alors solidarité des premiers temps, dans le premier point. Que s'est-il donc passé? Le contexte de ces lectures, c'est donc après la Pentecôte et l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples réunis dans la chambre haute. Et nous savons, le parler en langue, le parler dans les langues des gens qui se trouvent autour d'eux, et il y a toute une énumération des différentes langues et langages utilisés dans les personnes autour de ce bâtiment et autour de ce qui s'est passé dans cette chambre haute. Donc suite à cela, Pierre prend la parole et s'adresse à la foule. Il annonce la bonne nouvelle de l'Évangile, la parole de Dieu, forte et puissante. Et là, les disciples assistent à des vies changées, à des conversions et ensuite à de nombreux baptêmes. Alors, si vous permettez, nous allons relire ensemble. Je vous propose de remonter quelques chapitres avant, dans Acte 2, versets 41 et 47. Alors, il est écrit que ceux qui acceptèrent sa parole, donc la parole de Dieu, furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Waouh, quel impact! Et là, il nous est relaté qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voilà ce qui s'était déjà passé précédemment. Alors, après toutes ces conversions, il n'est pas question de quelques personnes, mais là, en l'occurrence, de 3000 personnes. Donc, cette foule immense, regroupée, joyeuse, louant Dieu, bénie, guérie aussi, il fallait songer à la suite. Que faire avec cette multitude? Il fallait songer, à les accueillir, à les enseigner, à les héberger pour beaucoup de ceux qui ont envie de rester ensemble et ceux qui n'ont pas grand-chose ou rien. Il fallait aussi les nourrir. Et là, nous voyons l'action du Saint-Esprit au travers de plusieurs manifestations, mais notamment deux essentielles que nous relevons dans tout autour de ce thème de la solidarité. On voit la compassion, le soin des âmes et la solidarité. Et moi, je dirais, pour avoir assisté à les actions des Restos du Cœur ces derniers temps, ben je dis que là, c'est même plus fort que les Restos du Cœur, parce qu'il n'y avait pas besoin de collecte. On assiste à un élan de générosité spontané du cœur. Il n'y a pas besoin d'insister, s'il vous plaît, de demander, de rappeler les besoins. Alors, qu'est-ce que la solidarité ? Ben, la solidarité, c'est l'abnégation, le sacrifice, c'est les offrandes, c'est le soutien. Alors, qu'est-ce que c'est que vivre aussi cette solidarité ? Elle revêt bien sûr divers aspects, la solidarité. Elle n'est pas que financière, c'est pas que du sonnant et trébuchant, comme on dit. C'est la nourriture, c'est le vêtement, c'est le service, les services, c'est bien sûr l'argent, et c'est l'accueil, c'est la mise en commun, comme nous l'avons lu, c'est le soutien. Pas un soutien à moitié, mais à 100%, pourquoi ? Par grâce, par abnégation, sans se soucier de son propre confort. C'est la fidélité, c'est la dévotion. Et là, nous voyons que la communauté se construit autour de ces valeurs de compassion et de solidarité. Et nous pouvons lire et nous pouvons nous rappeler de ces versets dans Galates, par exemple, chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Là, nous sommes pleinement dans au moins un des fruits de l'esprit, la bonté. Dans Proverbes, chapitre 3, verset 9-10, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût, de raisins. » Et puis dans 1 Timothée, au chapitre 6, verset 18, il y a une recommandation. « Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. » Encore une fois, il n'est pas question uniquement de donner de l'argent. Ça revêt plusieurs aspects. Notre Dieu de miséricorde, de grâce, d'amour, encourage, exhorte chacun de ses enfants à faire preuve de compassion, de générosité, par des dons envers son prochain. Avec non à la clé de la misère, le Seigneur n'a pas dit si tu as 100 euros, donne 100 euros et toi tu n'as plus rien. Donc il n'y a pas la clé de la misère, il n'y a pas de la pauvreté, mais il nous est rappelé un gain en croissance spirituelle certain, une qualité de vie comblée et un enrichissement, comme le rappelle notre verset de Proverbe. Hein, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. Et puis tout à l'heure, n'avons-nous pas lu qu'il y avait une grande grâce qui reposait sur eux tous ? Dans les premiers versets, la générosité de Dieu en retour. Parce que le Seigneur n'est pas du tout et loin de là insensible à la générosité de notre cœur, sous diverses formes, mais une générosité. Et tout à l'heure, nous avons dit une générosité à 100%. C'est pas juste j'ai envie de donner, mais de mon superflu. Ou bien un petit peu, comme ça, ça fait bonne figure. Ça donne bonne conscience. Et puis, dans la deuxième lecture, nous voyons un autre tableau, une autre réaction. L'envie crée le besoin et inversement, le besoin crée l'envie. Ah, j'aimerais bien m'acheter cette chose-là, parce que j'en ai envie. Ou parce que j'en ai besoin. Et je vous propose une expérience. Faites-la à un moment opportun. Au moment où vous vous dites, tiens, j'aimerais, il faudrait ou je veux acheter cette chose. Dites-vous, quels sont les arguments qui font que je vais acheter cette chose. Je vais acheter cette chose. Et puis, quand vous avez terminé, alors, vous pouvez le faire sur soit dans votre tête, ou même à haute voix, ou sur une feuille de papier, et après dites-vous, qu'est-ce qui ferait, quels sont les arguments pour ne pas acheter cette chose ? Et vous verrez, nous sommes tout à fait capables de trouver des arguments pour et des arguments contre. Après, cela nous donne le résultat, vais-je procéder à l'achat ou pas. Mais c'est un bon moyen. Point 2 de notre réflexion, la solidarité selon Ananias et Saphira. Alors, si tu peux passer sur la deuxième partie. Hein, le premier verset, c'est « Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, avec, hein, vendit une propriété. » Voilà, et nous, après nous avons la suite. Et il retint une partie du prix de la vente, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste, si je peux dire le superflu, et le déposa aux pieds des apôtres. Alors, que s'est-il passé dans ce récit ? Luc nous relate, c'est quand même un épisode assez troublant. Ananias et Saphira, comme d'ailleurs les autres membres de la communauté, hein, ils font partie de la communauté qui se construit, avaient le libre choix de vendre ou de garder. Qu'est-ce qui nous dit ça ? Pierre dit, s'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas ? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition ? Ils étaient libres. Libres de vendre, libres de ne pas vendre, libres d'offrir autre chose dans la communauté. Libre d'en donner une partie ou de donner tout ou les trois quarts. Mais qu'ont-ils fait ? Ils ont gardé une partie pour eux et sont allés donner le reste. D'accord ? Mais en fait, quel était leur état de pensée ? Là, on s'aperçoit que c'est l'amour de l'argent qui conduit leurs décisions, qui a pris le dessus sur leur motivation de donner de l'argent aux apôtres pour la communauté. Leur cœur n'était pas pur. Le mensonge, l'hypocrisie, la tentation ont engendré cette situation dans leur cœur et dans leurs actes. Ananias et Saphira ont péché car ils ont voulu donner l'image de chrétiens généreux, engagés dans le bien de la communauté au travers de leur démarche, mais alors qu'ils étaient en fait avares et cupides. L'amour de l'argent les a conduits à mentir, et en plus avec préméditation et d'un commun accord. Et aux yeux de la justice aujourd'hui, celui qui commet un crime avec préméditation, il prend le maximum, parce qu'il a préparé son coup. Il a préparé, il s'est donné le temps, les moyens d'accomplir ses mauvaises pensées, ses mauvais penchants. Et pourtant, vous savez ce que ça signifie, Ananias ? Ça signifie « Dieu a été miséricordieux » quand même. Quelqu'un qui porte un nom comme ça, qui est enclin à vivre la miséricorde de notre Dieu, agit à l'encontre de cette miséricorde. Ils ont voulu tromper, jouer gagnant, si on peut dire, sur deux tableaux. S'enrichir, d'abord, et, avec un gros « et », bénéficier des bénédictions de Dieu. Comme il nous est rappelé dans le début de ces versets, « Le Seigneur bénissait richement, guérissait, encourageait, exhortait la communauté ». Ils ont voulu jouer sur les deux tableaux. Mais là, on voit qu'il n'y a pas de compromission. Vous savez, un jour, on a parlé de cette compromission, cette fameuse compromission. Là, ils sont tombés dans la compromission avec le mensonge comme ingrédient dans le plat. Et là, il a fallu chasser le ver de la pomme avant qu'il ne contamine les autres. À noter que le Saint-Esprit à révéler le mensonge, hein, si on relit bien ce qui a été lu donc tout à l'heure, Pierre s'adresse tout de suite à Ananias et lui dit « Mais pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur ?» Le Saint-Esprit avait révélé à Pierre que Satan était entré dans le cœur d'Ananias, et on verra de Saphira, et ils l'ont laissé agir. Rappelons-nous quand même que nul ne peut tromper le Saint-Esprit. Nul. Et là, on assiste à une punition exemplaire. Le peuple ne devait pas être contaminé par de tels actes et pensées, et que rien n'est caché aux yeux de Dieu. Et cela est même révélé à une tierce personne. Et on voit que 3 heures plus tard, Saphira arrive et elle enfonce encore la vérité. Elle scelle le mensonge et pourtant, elle a la possibilité de se reprendre. Parce que Pierre lui dit, est-ce que c'est bien là les 30 euros qui restent du prix de ta propriété? Entre parenthèses, sur les 100 euros que vous l'avez vendu. Elle dit oui. Assurément, c'est bien le prix de vente. Et 3 heures après, son mari, elle meurt également. Et là, on se souvient des paroles de Paul. Il a raison hein, quand il affirme que l'attachement excessif des finances, hein, de l'argent, ouvre la porte à toutes sortes de maux. Et les maux, c'est d'abord la frustration, hein, faut pas oublier, hein, l'argent ne fait pas le bonheur, hein, comme on dit. L'insatisfaction, n'en a jamais assez. Et l'égoïsme, moi d'abord et un tout petit peu pour les autres. Dans 1 Timothée au chapitre 6, verset 10, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Là, ça pourrait être l'histoire d'Ananias et de Saphira. La Bible affirme que les richesses non partagées ne produisent pas le bonheur, bien au contraire. Dans Ecclésiaste, chapitre 5, versets 12-13, « Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir parce qu'il reste insatisfait. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. » Vous vous souvenez de cet homme riche qui a dit « Ah, mon âme, tu as bien travaillé, les greniers sont remplis, tu vas pouvoir te reposer. » Et là, la parole dit « Tu sais pas que demain tu vas mourir. » Proverbe 1,9 « Ainsi qu'arrive-t-il à tout homme avide de gain, la cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. » Et là, on peut relever ce mot « perte ». Perte, ça a le sens d'être capturé. Ainsi, une personne avare est prisonnière, elle est capturée, elle est enchaînée par le désir excessif de possessions matérielles et financières. Sa perte, ce n'est pas que la perte que nous assistons là, c'est aussi cet esclavage qui perd l'âme de cette personne, comme le jeune homme riche. On peut dire qu'il avait un gros avantage, cette richesse. C'était un avantage pour lui de l'avoir, pour lui-même bien sûr, mais pour aussi en faire profiter les autres. Mais qu'a-t-il fait? Il a tourné les talons, il est parti. Parce qu'il avait dit, « Seigneur, que puis-je faire pour être sauvé ?» Le Seigneur lui dit, « Ben, vends ce que tu as, parce que ça, c'est ta perte. » Et lui, il est parti parce qu'il était riche. Dans Luc, chapitre 12, verset 15, « Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice. » Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Le Seigneur ne regarde pas à ça. Il regarde au cœur. On peut être pauvre financièrement et donner beaucoup au Seigneur, beaucoup aux autres. Beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup de dévouement. Dans Malachie, chapitre 3, versets 8 à 10, « Un homme trompe-t-il Dieu ?» Point d'interrogation. « Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé ?» Dans la dîme et les offrandes. « Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, vous, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » Et là, le Seigneur dit, là, je l'ai souligné dans mon texte, « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Et vous savez, le Seigneur, quand il dit les bénédictions en abondance, ce n'est pas simplement tu seras joyeux et rempli de ma présence tout le temps. Mais les bénédictions, c'est aussi des bénédictions financières, des bénédictions de réussite. Et ça, nous l'oublions aussi souvent. Et comme nous l'avons souligné tout à l'heure dans Proverbe, Dieu serait-il menteur quand il dit cela? Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez. Mais si on ne met pas quelqu'un à l'épreuve, comment on peut savoir ce qui se passe? Et le Seigneur pourtant donne déjà la réponse. Il permet aux généreux donateurs, on va dire aux généreux donateurs, le retour en bénédictions diverses et variées, matérielles comme spirituelles. Nous avons un autre exemple par rapport à Ananias et Saphira de tromperie, d'avarice, de mensonge avec les conséquences terribles de la justice de Dieu. C'est dans Josué, chapitre 7, verset 1. Le Seigneur avait donné ordre, interdiction de prendre quoi que ce soit de prise à l'ennemi. Tout devait être dévoué par interdit. Hein, souvenez-vous, hein, toute cette histoire-là du peuple quand il rentre dans la terre promise. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Achan, fils de Carmi, hein, de la tribu de Juda, il prit, il garda pour lui des choses dévouées, des choses interdites. Dieu lui dit, vous n'y toucherez pas. Et lui il dit, ouais, mais si j'en prends un petit peu pour moi, tout ça, ça peut servir. Après tout, pourquoi on le détruirait? Pourquoi on le jetterait? Et là, la colère du Seigneur s'enflamma contre les enfants d'Israël. Avait-il besoin de garder quelque chose puisque le Seigneur pourvoyait à tout? À la fin de notre lecture, tout à l'heure, le dernier verset, au moment où Saphira succombe également, il est dit, verset 11, « Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tout cœur, et de tous ceux, qui apprirent ces choses. » La crainte. Et nous l'avons même lu tout à l'heure dans Acte 2, hein, la crainte s'emparait de chacun. La crainte de l'Éternel. Mais aussi la crainte de quoi? Alors quels sont les effets et conséquences sur la communauté? Les versets qui précèdent notre récit donnent une image idéale de la communauté. Hein, nous voyons qu'ils se rassemblent, qu'ils sont généreux les uns envers les autres, en tout cas ceux qui peuvent vendre, vendent, selon ce que le Seigneur met sur leur cœur, pour le bien des autres. Le partage des biens est présenté comme ayant un lien direct avec l'unité de la communauté. Hein. On met en commun, et puis celui qui a moins, on donne, selon ses besoins. Hein. Il n'est pas dit, on va donner plus aux pauvres et moins aux autres. Non, c'est chacun selon ses besoins. Pourquoi donner plus à celui qui a besoin de moins? Voilà aussi ce qu'il faut se dire. Et relevons donc l'effet immédiat de la mort d'Ananias et ensuite celle de Saphira sur les chrétiens témoins de la scène. Dans les deux cas, une grande crainte saisit tous ceux qui ont assisté à la scène, déjà ceux qui emmènent les corps, se disent « Waouh, qu'est-ce qui s'est passé ?» Mais aussi ceux qui l'ont appris plus tard. Alors cet événement a été fort probablement écrit pour raconter, pour inciter les chrétiens à être honnêtes, honnêtes, dans le partage des biens avec la communauté. Honnêtes, sans tromperie. Malgré cela, nous pouvons être choqués par le sort de ce couple qui a été exécuté pour son péché. Mais le but recherché, c'est pas le sort de ces deux individus, c'est plutôt le sort de la future communauté. Le récit se termine avec la conséquence communautaire. Toute l'Église éprouve une grande crainte. Le drame n'est pas tant la mort des deux individus que la fin de l'harmonie dans la communauté qui devait être un seul corps et une seule âme. La communion fraternelle, ce n'est pas un idéal philosophique. Elle est essentielle à la vie de la communauté et à son témoignage. Une communauté honnête, soudée, volontaire, saine. Imaginons une fin inverse. Imaginons une issue inverse. Pourquoi pas? Mais imaginons aussi l'issue de la communauté. De voir que tout compte fait, on peut mentir. Tout compte fait, on peut tromper. Et puis, c'est pas grave. On a parlé du ver dans la pomme, un fruit gâté. Vous achetez des fruits, vous les mettez ensemble, il y a un fruit gâté. Les bons fruits ne vont pas sauver le mauvais fruit, mais le fruit gâté va contaminer tous les autres. Laissons la parole du Seigneur pénétrer nos cœurs, nos réflexions, et se dire, oui Seigneur, examine, aide-moi à m'examiner, à examiner ma solidarité. Quelle est la valeur que je donne à ma solidarité? Quelle est la valeur que je donne à ma solidarité? À quel prix? Est-ce que ça me coûte d'être solidaire? Est-ce que je suis à 100% solidaire? En toute chose. On a vu que ce n'était pas uniquement financièrement parlant, mais en toute chose. Est-ce que nous sommes solidaires dans les activités de notre communauté? Est-ce que nous sommes présents, engagés, volontaires, prêts à donner? Prêt à s'engager, prêt à aider, prêt à porter, prêt à supporter. Que le Seigneur bénisse richement sa parole. Amen.